Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, c'est vendredi et une fois n'est pas coutume, Martin Mosnier est absent. Je suis Adrien Yo et pour m'accompagner, vous le connaissez déjà depuis de longues années, mais aujourd'hui il est Laurel sans Hardy, il est Boule sans Bill, il est Stone sans Chardin, il est Obélix sans Astérix, il est Henri sans Trézéguet. Martin est absent, vous l'aurez compris, Maxime a perdu sa boussole, son phare, mais sûr qu'il saura relever ce défi avec génie comme toujours. Comment ça va, Maxime?
Bah ça va très bien, je suis avec toi, donc ça va très bien. T'es beau comme un camion dans ta petite case, très bien, avec tes petites briques derrière. C'est parfait. Alors attends, je suis Boule, ouais, je suis l'Obélix, et Laurel et Hardy, lequel? Là, il y a un truc, là.
Exactement.
J'ai l'impression que tu veux faire passer un message, là.
Pas de cacher, on a préparé cette petite surprise avec Martin, parce qu'on sait que dans le FC Stream Team, vous aimez bien ces présentations de Maxime, donc on voulait pas déroger à la règle, et même si Martin est absent, eh bien on voulait quand même vous faire profiter de ses talents d'écriture.
Ses grands talents d'écriture, d'ailleurs il est pas là, parce que tout simplement, parce qu'il dit tout le temps, Martin il dit tout le temps, oui Maxime, tu viens deux minutes avant l'émission, tu prépares rien. Bah Martin, il a pas eu envie de venir aujourd'hui. On lui a dit non. Les sujets à 13h, il a fait... Non, pas pour moi. On va parler de Maradona. Mon joueur préféré, c'est Moravchik. Maradona, moi, je m'en fous complètement. Donc voilà, ça, c'est Martin Mosnier. Voilà, c'est le vrai visage de l'homme qui fait le sympa devant la caméra et devant le micro, mais qui n'est pas si sympa que ça. Non. Trêve de plaisanterie, il avait un petit souci, il ne pouvait pas être là. Donc on lui souhaite bon courage pour cette journée qui va être, à mon avis, très sportive.
Exactement.
À la semaine prochaine, Martin.
Et bon courage pour son fils aussi, parce que c'est lui qui est malade. On dévoile rien, mais on le dévoile quand même.
Mais imaginez, si vous avez des enfants en bas âge ou si vous en avez eu, imaginez ce que c'est un enfant en bas âge qui est malade. C'est du sport, c'est la...
Ah oui.
Je ne sais pas à quoi on peut comparer ça, mais c'est très très chaud.
Exactement. On va passer au sommaire, Maxime, si tu le veux bien. On a trois gros sujets aujourd'hui.
Encore gros Obélix, tout ça, c'est...
ça n'arrête pas. Un sujet Maradona. On se pose la question sur les ballons d'or que Maradona aurait pu recevoir dans sa carrière. Évidemment, vous le savez, Maradona ne pouvait pas recevoir de ballon d'or parce qu'à l'époque où il jouait, les règles du jeu ne permettaient pas aux joueurs étrangers et notamment sud-américains de pouvoir recevoir la prestigieuse distinction. Donc on se demandera avec Maxime combien de ballons d'or aurait pu avoir Maradona s'il avait été éligible au ballon d'or.
Deuxième sujet, on mettra un peu les pieds par terre, on va parler de Florian Thauvin et un peu de l'Olympique de Marseille, mais surtout de lui, il arrive en fin de contrat, il est toujours transparent en Ligue des Champions, on a l'impression que la saison dernière où il était absent tout le temps a été difficile à digérer, et on se posera aussi surtout la question de son avenir, est-ce que l'OM a intérêt à prolonger un joueur comme Florian Thauvin aujourd'hui, mais s'il ne le prolonge pas, à qui le vendre et à quel prix? On sent que c'est très compliqué, ce sera notre deuxième sujet avant Marseille-Nantes demain en Ligue des Champions, en Ligue 1 pardon.
En Ligue 1, et on passera ensuite sur un autre joueur lyonnais cette fois-ci. On se posera également la question de son avenir, c'est Oussem Aouar. Oussem Aouar qui a été sanctionné par son club et qui ne jouera pas ce week-end avec l'OL parce qu'il a refusé de venir s'entraîner après le match d'Angers, un match qui n'avait pas débuté. Il a refusé de venir jouer, de venir s'échauffer, de venir entretenir son physique à la fin du match. Il a été sanctionné pour ça. On se demandera où va Oussem Aouar. Maxime, tu dois nous rappeler également où est-ce qu'on peut écouter cette émission.
Alors, il y a deux solutions. Vous allez sur eurosport.fr, vous en avez l'habitude, il y a un lien, vous allez cliquer dessus, vous l'avez sur votre ordinateur. Mais si vous voulez nous entendre, par exemple, sur votre téléphone, en faisant votre jogging ou vos courses, c'est très simple. Vous allez sur les bonnes plateformes de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, etc. Tous les trucs qui finissent par podcast. Vous nous retrouvez, vous vous abonnez, c'est important parce que ça vous permet d'avoir l'émission dans votre téléphone la semaine suivante et surtout vous nous mettez 5 étoiles parce que plus on a d'étoiles, plus on continue et plus on est content. Ça nous fait passer un excellent week-end, une excellente semaine et on est toujours très content de vous retrouver le vendredi suivant.
Exactement. On débute donc avec Maradona, on va se poser la question de sa place dans l'histoire. Il y a quelques semaines, nous avions fait sur sport.fr un podcast « Qui c'est le plus fort ?». On s'était posé l'éternelle question « Qui est le plus fort entre Pelé et Maradona ?» parce que Maradona, évidemment, a une place à part et une place au premier rang de l'histoire du football, Maxime.
Ouais, on avait fait ce podcast parce que Pelé venait d'avoir 80 ans et Maradona allait fêter ses 60 ans. Diego Maradona est mort mercredi d'un arrêt cardiaque et du coup, on a voulu évidemment revenir sur sa carrière, sur lui, sur sa place dans l'histoire du foot. Et un peu après, on parlera des Ballons d'Or. Je vais pas répéter ce que j'ai dit dans le podcast. D'ailleurs, je vous encourage à aller l'écouter. C'est dans la série Qui c'est le plus fort d'Eurosport, Pelé, Maradona, qui c'est le plus fort. Moi, ma réponse, elle est très simple, je vous la fais très vite. C'est Pelé qui est devant, mais... La grandeur de Maradona, justement, c'est de m'avoir fait douter que bah, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de Pelé et que c'était peut-être Maradona. Parce que comme je l'ai dit la première fois, Pelé, il a toujours cet avantage d'être le premier à passer. C'est un avantage qu'on a souvent dans les arts, dans la musique et dans le sport aussi. Bah, lui, il est arrivé derrière et vu ce qu'il a fait avec son style, avec son côté, ce que je disais, je donnais l'exemple entre si Pelé, c'est la pop musique, c'est les Beatles, bah, lui, c'est du punk rock. C'est quelqu'un qui met un grand coup de pied dans la fourmilière à l'occasion de la Coupe du Monde 86 et qui, par sa grandeur naturelle, laisse imaginer qu'il est sûrement plus grand que le plus grand. Aujourd'hui, Maradona, il faut regarder ce qu'il a fait, si vous regardez les vidéos. C'est ce talent pur, c'est de regarder ce que vous verrez sur ces jongles. On a repassé des dizaines de fois depuis mercredi la fameuse scène à Munich au stade olympique lorsqu'il s'échauffe. Il y a d'autres scènes aussi, vous le voyez faire des ailes de pigeon avec un ballon qui part dans le ciel et qu'il rattrape sans bouger. C'est cette facilité technique, c'est tout simplement un don venu du ciel. C'est ce qui fait que pour moi, il est le deuxième parce qu'on a vraiment un extraterrestre tel que Messi, son lointain successeur en Argentine, est aussi. C'est que des gens qui sont nés avec, on dit des fois que des gens sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, bah lui il l'avait, il avait de l'or entre les pieds et il en a fait, il a peut-être, il aurait pu être peut-être un peu mieux, mais parce qu'il y a eu ses excès, mais n'empêche qu'avec ses excès, être arrivé à ce niveau-là et faire ce qu'il a fait, notamment, on en reparlera tout à l'heure pour les Ballons d'Or, son show de la Coupe du Monde 86 qui est la Coupe du Monde la plus délirante au niveau individuel. Il n'y a pas un joueur dans l'histoire, avant, après, qui a pesé autant sur le destin d'une équipe. Quand on caricature, on dit que Maradona était tout seul contre le reste du monde. On caricature évidemment parce que Valdano, Burruchaga, José Luis Brown, tous ces joueurs-là, ce n'étaient pas des peintres. Mais quand même, ce qu'il a fait, sans lui, une chose est sûre, l'Argentine ne gagnait pas la Coupe du Monde. Ce que le Brésil a réussi à faire, son Pelé, notamment en 62, lorsqu'il était blessé au bout du deuxième match, il me semble.
Ouais, moi je suis un peu plus partagé, effectivement, Pelé, Maradona. Moi je trouve que Maradona, est-ce que tu venais de dire à l'instant, gagner une Coupe du Monde à soi, tout seul, c'est quelque chose qui place un joueur, pour moi, au-dessus de tous. Alors évidemment, il y aura toujours match avec Pelé, mais réussir une Coupe du Monde comme il l'a fait, et en plus, en mettant des buts de génie, vous l'avez certainement vu et revu, les deux buts d'ailleurs, la main de Dieu et puis le slalom incroyable face à l'Angleterre en quart de finale, mais on oublie aussi les buts face à la Belgique en demi-finale. Cette Coupe du Monde, le fait qu'on se rappelle de 86 davantage pour la Coupe du Monde de Maradona plutôt que la victoire de l'Argentine, pour moi, ça place le bonhomme tout au-dessus. Et voilà, ce qui fait aussi que c'est d'une tristesse absolue, c'est le personnage, c'est les larmes de Maradona après la finale de 90. Et j'ai relu des choses cette semaine. Il avait pleuré aussi également, il en a voulu à mort au sélectionneur de l'époque de 1978 de ne pas avoir été sélectionné pour cette Coupe du Monde que l'Argentine a gagnée en 78, sous la dictature des militaires. Mais c'était une Coupe du Monde. Je pense que peut-être déjà, Maradona savait qu'en loupant cette Coupe du Monde, il aurait du mal à rejoindre le roi Pelé et ses trois titres. Et que et ben finalement il aurait du mal à être légal en termes de palmarès, par contre en termes de jeu, voilà, je vais pas répéter ce qu'a dit Maxime, mais Maradona c'est de l'or dans les pieds, c'est incroyable et voilà, il garde une place. Et ce que je finirai en disant en évoquant Pelé, j'ai bien aimé la phrase de Pelé à l'encontre de Maradona juste après le décès, en disant bah, j'espère qu'un jour on jouera au ballon dans le ciel tous les deux. Ça montre bien que même Pelé le place presque à son égal, et quand on sait l'ego qu'a Pelé, dire ça même dans l'émotion, ça montre que voilà, on considère les deux comme étant des génies absolus.
Ah mais il est très magnanime, Pelé, alors que de son vivant et beaucoup plus tôt pendant la carrière de Maradona, il était beaucoup moins magnanime avec Maradona parce que justement, je pense qu'il sentait cette menace du joueur qui est complètement dingue. Il y a autre chose aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a Gary Lineker qui a parlé de Maradona à la télé anglaise cette semaine. Et à un moment, il dit un truc très marrant et très marquant, c'est qu'il joue un match international à Wembley, c'est un match de charité, il me semble, Angleterre, reste du monde, quelque chose comme ça. Et en fait, Lineker se retrouve dans l'équipe du reste du monde parce qu'il joue à l'époque au FC Barcelone. Et il raconte que Maradona, à l'échauffement, balance des grandes chandelles, j'allais dire au plafond, mais qui partent à des hauteurs complètement dingues. Et à chaque fois, le ballon, il retombe dans ses pieds. Il le fait quelque chose comme 10 ou 13 fois. Et les gars le regardent, ils disent, c'est incroyable. Lineker retourne à Barcelone. Il va s'échauffer avec les copains du club et là ils essayent de faire pareil et il dit qu'il n'y a personne qui l'a fait plus de 3 fois parce que c'était impossible. Et c'est la fameuse phrase de Platini qui avait rien contre Zidane mais qui disait tellement long de ce que Maradona savait faire, c'est-à-dire que ce que Zidane fait avec un ballon, Maradona le faisait avec une orange, ça résume tout. Et il y a encore, je suis désolé, je serai intarissable sur ce sujet, quand Zidane parle de Maradona, il parle aussi de lui, il se rappelle de Maradona qui tapait la barre, vous savez, il se met face au but. Et avec le ballon, il la tape. Et je crois qu'il avait réussi ça 3 ou 4 fois de suite. Et Zidane dit, bah, moi, je n'ai jamais réussi ça plus de 2 fois ou quelque chose comme ça. Donc, ça dit l'extraterrestre qu'était Maradona et sa place unique dans l'histoire. Parce que si on dit une chose une dernière fois, tu parles de la Coupe du Monde 78, il est trop jeune pour y aller. Et lui, il le vit mal. Et il a le culot, ça sera toute sa carrière, de dire les choses et d'assumer derrière. Et ça, c'est formidable. Parce qu'il y a ceux qui parlent après, qui disent, bon, bah voilà, j'ai fait ça, etc. Lui, il le disait avant, c'est-à-dire que quand on le prenait un peu de haut, il disait, tu m'as fait ça, mon gars, bah tu vas voir sur le terrain. Et derrière, il délivrait, comme on dit. Donc, c'est ça qui fait sa place unique. Et moi, si je devais avoir des regrets aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, c'est de ne plus avoir ce personnage. Il y a Zlatan qui fait un peu ce côté, un peu. Il dit ce qu'il pense ou ça. Mais c'est trop marketé. Maradona, il n'y a pas de marketing derrière. Il y va tout droit, il fonce, et c'est ça qui était formidable. Il se pose la question, donc j'y viens, la transition est toute trouvée, puis sa place dans l'histoire, c'est évidemment les trophées collectifs, ça, il n'y a pas de problème, mais aussi les trophées individuels, et évidemment le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, évidemment, Maradona ne l'a jamais gagné. Il a eu un Ballon d'Or d'honneur, je crois, en 1995. Il ne l'a pas gagné, pourquoi ? Ben, on va vous expliquer tout simplement. C'est que jusqu'à 1995, pour être éligible au Ballon d'Or, il faut être européen, tout simplement. Et quand c'est ouvert en 1995, Weah le gagne. Il le gagne parce qu'il évolue dans un club européen. Il y a cette petite distinction qui fait que c'est ouvert. Mais avant, Maradona ne pouvait pas. Donc on s'est posé la question suivante, Adrien, de savoir combien de ballons d'or Maradona aurait-il pu gagner si le scrutin avait été ouvert à tout le monde dès 1956.
Alors pour répondre à cette question, on a fait simple. On va égrener les années, on va vous expliquer pourquoi cette année-là, il aurait pu ou dû l'avoir selon nous, et pourquoi les autres années, eh bien, il y avait meilleur que lui, et il était évidemment en dehors de la course. On va commencer par son arrivée à Barcelone. Il a joué 2 ans à Barcelone, entre 82 et 84. Là, c'est les débuts de Maradona en Europe. On sait que ça a été difficile, et il a eu la cheville brisée notamment. Ça s'est pas très bien passé, on va pas se mentir, à Barcelone. Et puis, ça s'est même très mal conclu parce que ça s'est terminé sur une bagarre générale, il me semble, face à l'Athletic Bilbao. Ouais. Voilà, le souvenir de Maradona en Espagne. Alors, pour le coup, il a quand même gagné, il me semble, une coupe et il avait fini meilleur joueur du championnat. Mais voilà, c'est pas l'image flamboyante, c'est les débuts vraiment de Maradona. Et à cette époque-là, à côté, il y avait un certain Michel Platini qui brillait du côté de la Juve. Donc, les années barcelonaises de Maradona, il n'aurait pas pu remporter ce ballon d'or.
Non, et puis y a, on va dire, si on découpe la décennie 80, il y a 2 parties, jusqu'à 85, on va dire. 82, le ballon d'or revient à Paolo Rossi, parce que l'Italie est championne du monde, parce qu'il marque 6 buts. Et pendant 20-30 ans, le ballon d'or, c'était la prime vraiment, ça a changé depuis, Griezmann le sait, aux champions du monde et aux meilleurs joueurs, on va dire, ou aux meilleurs buteurs de cette équipe. En général, ça, c'était souvent ça, ou un type qui brille en finale, n'est-ce pas, Zinedine Zidane. 82, donc c'est Paolo Rossi, c'est pas lui, parce que c'est pas possible, voilà, c'est Barcelone, la cheville brisée, etc. Après, il y a un autre extraterrestre qui s'appelle Michel Platini, 83, 84, 85. 83, Platini, je crois, gagne la Coupe des Coupes. 84, c'est l'Euro de Platini, donc là, on peut laisser tomber ses 9 buts, il est au-delà de la mêlée. Et 85, là, la victoire du Ezel, la Ligue des Champions. Il n'aurait pas pu, à mon avis, sur ces 3 années, concurrencer Michel Platini, qui n'aurait pas bougé. En revanche, là où ça change, Adrien, c'est à partir de 1986, et on va dire même de 86 à 90, où, on va vous dégrainer les années après, mais il aurait quasiment, ou presque tout le temps, été sur le podium s'il avait été éligible.
86, on en a parlé. 86, c'est effectivement la Coupe du Monde. Donc, prime au vainqueur de la Coupe du Monde. Maradona gagne la Coupe du Monde. Et en plus, c'est le joueur majeur et ultra dominant de son équipe. Donc, en 86, il n'y a pas de débat. Il remporterait ce ballon d'or haut la main. Voilà, Maxime, si tu veux rajouter.
Non, oui. Ce que je peux rajouter, c'est que le ballon d'or cette année-là, c'est Igor Belanov, un soviétique. C'est un vrai choix par défaut. Michel Platini joue la Coupe du Monde blessé. Michel Platini est déjà sur un début de déclin. Voilà, si vous mettez, je pense que si vous mettez Maradona à l'époque dans le scrutin, l'écart, il est complètement ahurissant. Je me demande si, à mon avis, il est quasiment élu à l'unanimité, au moins des premières places, parce que là, il est tellement au-dessus, c'est tellement gros. Et il faut prendre aussi le pouls de ce qu'est une Coupe du Monde à l'époque. Le football de club n'a pas le même poids. Là, c'est en Mondovision. Tu as dit l'Argentine-Angleterre, le quart final. Premier tour, c'est pareil. Il y a des gestes incroyables. Il fait la pluie et le beau temps. La demi-finale face à la Belgique, il y a évidemment ce but, ce slalom qu'on oublie souvent, mais qui est incroyable. Et en finale, il donne le ballon de la victoire à Valdano. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas photo sur 86. Et j'ai envie d'ajouter que sur sa lancée, à mon avis, il aurait gagné 1987 parce que 1987, c'est Ruud Gullit. Ruud Gullit vient d'arriver à l'AC Milan, joueur flamboyant évidemment, grand joueur, avec un transfert, deuxième transfert de l'histoire, il me semble, à l'époque.
Mais, d'ailleurs, c'est le Maradona. D'ailleurs,
voilà,
c'est le
Maradona. Exactement.
Ou à Naples, je sais plus.
À Naples, oui. En fait, le truc, c'est que Gullit, lui, il ne gagne pas, alors que Maradona, il faut remettre dans son contexte, il va permettre à Naples d'être champion d'Italie. Quand Maradona arrive à Naples, Naples, c'est pas grand-chose. Voilà, Naples n'a jamais rien gagné. Et il va aller gagner ce titre. Ça fait un peu la suite de ce qui fait que l'Argentine, je ne vais pas dire tout seul, mais quasiment. Et il faut revoir les images de l'époque. Les joueurs n'ont jamais été aussi protégés qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux, les artistes, c'est-à-dire Messi, Ronaldo et compagnie, voilà. Mais mettez-les à cette époque-là, avec ce que prenait Maradona, les cisailles qu'il essayait d'éviter à chaque match, c'est complètement dingue. Et réussir à être champion d'Italie dans ces conditions, avec un championnat d'Italie qui était d'une difficulté absolue, c'est complètement dingue. Et il y aurait peut-être eu un petit rival qui aurait été éligible aussi, il s'appelle Rabah Madjer, parce que Rabah Madjer, lui, il gagne la C1 avec Porto, avec évidemment ce geste, cette talonnade. Mais est-ce que ça aurait suffi, honnêtement, face à la maestria de Maradona, sachant qu'il avait déjà 86 derrière lui? Je ne suis pas sûr, parce que j'ai pensé à un autre geste, alors il n'était pas complètement en temps de match. La Panenka d'Antonin Panenka, geste génial, resté dans l'histoire comme la Madjer, n'a pas permis au principal intéressé d'être ballon d'or. Donc je pense que ça aurait été un peu pareil. Et à mon avis, Maradona aurait aussi, en 1987, été ballon d'or et haut la main.
Donc ça fait déjà deux ballons d'or pour Maradona, 86-87. On passe à 88. 88, on va être clair, il y avait l'Euro en 88. On sait que les compétitions internationales ont un rôle très important. Et dans cet Euro remporté par les Pays-Bas, il y avait un extraterrestre, c'était Van Basten. Van Basten, c'est un triplé contre l'Angleterre en poule. C'est sa volée sensationnelle en finale. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à taper sur YouTube pour aller voir ça. C'est un des buts les plus fameux de l'histoire du football. Donc il avait affaire quand même à un grand néerlandais, on dirait. Et puis c'est une année où avec Naples il n'est pas champion, parce qu'on le rappelle, voilà, 87 il a été champion pour la première fois de l'histoire de Naples. 88 il n'est pas champion. Donc là Van Basten était au-dessus de la mêlée.
Ouais, et ce qui est drôle avec Van Basten, et ça dit encore le poids de l'époque de l'Euro, c'est que Van Basten démarre le championnat d'Europe sur le banc des remplaçants. En fait, il est remplaçant. Les Pays-Bas se prennent les pieds dans le tapis au début. Il rentre face aux Anglais, met le triplé. Et comme c'est aussi un scrutin très européen à l'époque, avec des votants européens, c'est sûr que ça a fait la différence. Et alors, ce qui aurait peut-être pu équilibrer un peu, c'est si les votants avaient été déjà très mondialisés. Mais honnêtement, c'était compliqué à l'air du temps de ne pas le donner à Marco Van Basten, parce que c'était le meilleur, tout simplement. Et je crois, si je ne me trompe pas, le 80, c'est Rummenigge qui est ballon d'or, c'est l'Euro. 84, c'est Platini. Donc c'est vraiment l'air du temps à l'époque, et le grand joueur de l'équipe championne d'Europe qui ressort. Et pour faire la transition, 89, c'est encore Marco Van Basten qui est ballon d'or. Et là, pour moi, pareil, je peux aller très vite, pas de discussion. C'est la meilleure équipe, c'est l'AC Milan, c'est 5-0 en demi-finale. Retour de C1 contre le Real Madrid, 4-0 contre Steaua Bucarest. Deux buts de Van Basten, deux buts de Gullit. Là, on est dans la plénitude de cette équipe de Marco Van Basten. Et à mon avis, ce que faisait Maradona n'aurait pas suffi non plus pour 1989.
1990, il y a un petit débat, même si là encore le poids de la Coupe du Monde a joué, parce que cette année-là, c'est Lothar Matthäus qui gagne, qui remporte, l'Allemand qui gagne avec la RFA face à l'Argentine, justement. Alors le débat, il est surtout là, il est est-ce que la finale perdue par l'Argentine également a certainement joué d'un poids, et si Maradona avait gagné la Coupe du Monde 86, il aurait certainement remporté ce ballon d'or. Donc voilà, il y a deux écoles. Soit on se place du côté les vainqueurs de Coupe du Monde, des vainqueurs d'Euro, c'est un des vainqueurs d'Euro, de Coupe du Monde, qui doit gagner le ballon d'or. Dans ces cas-là, il faut le donner à un Allemand, et donc c'est ce qui s'est passé. Après, moi je suis partagé, parce que Maradona, cette année-là, il est de nouveau champion d'Italie avec Naples. Il met 16 buts, donc gros champion. 16 buts aujourd'hui, ça paraît peut-être peu, mais marquer 16 buts à l'époque en Serie A, c'était une sacrée performance.
Et c'est pas un avant-centre?
C'est pas un avant-centre. Donc en performance individuelle, et puis donc il fait finaliste de la Coupe du Monde. Donc pour moi, là il y a match. Toi, Maxime, tu es plus partagé?
Non, moi je suis. Alors, on va refaire l'histoire. Tel que ça s'est passé, Mateus Ballon d'Or, d'ailleurs, il gagne avec un écart assez ample sur Salvatore Schillaci, qui est meilleur buteur du mondial. Faut pas oublier qu'il fait une énorme Coupe du Monde, Mateus, notamment un premier tour avec son match contre la Yougoslavie à Milan, qui est assez. Il marque le ton, voilà, de la Coupe du Monde. Il marque en quart de finale ce penalty et il refuse de tirer le penalty en finale parce qu'il le sent pas. Son penalty contre les Tchèques était pas super bien tiré, Tchécoslovaque d'ailleurs. Donc il refuse, voilà. Mais Mateus, c'est la tête pensante de cette équipe d'Allemagne. Et encore une fois, il y a le poids de la Coupe du Monde. Maintenant. Ce qu'on peut voir, c'est que si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, je pense en effet que Maradona est Ballon d'Or, si évidemment il est éligible. Pourquoi ? Parce que c'est simple, tu l'as dit, il est champion d'Italie, ce qui est déjà énorme, encore une fois, avec Naples, même si cette équipe de Naples est déjà un peu plus forte. Et puis, il porte encore cette équipe d'Argentine sur les épaules, parce que le premier tour, il est compliqué. Il sauve l'équipe d'une main sur la ligne, une main oubliée, voilà. C'est très ric-rac. En huitième de finale, les Brésiliens archi-dominent tout le match, tirent trois fois sur les poteaux. Éclair de génie à 10 minutes de la fin, il va dribbler je ne sais plus combien de Brésiliens, Cercanidia, ça fait but. Quart de finale au forceps contre la Yougoslavie. Demi-finale à Naples, cette demi-finale iconique dont l'Argentine sort aussi vainqueur au tir au but. Et cette finale, voilà, c'est compliqué. Ce qu'aurait pu le perdre à la rigueur, c'était l'image qu'avait l'Argentine, cette image-là qui était plus flamboyante. C'était une équipe qui était un peu. Qui allait à l'arrache et qui avait pu. On se rappelait d'elle aussi pour les mauvais coups, parce que notamment, elle va en finale avec deux joueurs qui sont suspendus. Donc ça l'aurait peut-être un peu pénalisé, mais en effet, s'il avait gagné la Coupe du Monde et qu'il avait été éligible, il aurait eu de fortes chances. Maintenant, s'il avait été éligible tout en perdant la finale, vu l'image qu'avait l'Argentine à ce moment-là, et déjà lui, la sienne, qui se dégradait un petit peu, on sait que le fair play, ça comptait. Moi, je pense qu'il n'aurait pas eu le Ballon d'Or, mais il aurait fait un deuxième. Et ce qu'il aurait fait, on va dire, entre 86 et 90, on aurait vu quasiment sur 4 ou 5 podiums facilement. Mais je pense que deux ballons d'or, ça me paraît très équilibré. Évidemment, il va sans dire que derrière, il ne pouvait plus le gagner parce que c'était terminé, c'était déjà la grosse descente.
Très bien.
Alors, on peut replacer aussi dans. Alors, je suis désolé, je suis un tarissable sur le truc, j'adore ça. Deux ballons d'or, ça l'aurait mis derrière Cruyff et derrière Platini à l'époque. Et Van Basten aurait mis le troisième en 92. Donc déjà, ça donne le poids dans l'histoire qu'il aurait eu. Évidemment, maintenant, on est à 5 pour Ronaldo, 6 pour Messi. C'est un autre football, c'est une autre manière de récompenser les joueurs. Mais déjà, ça vous donne à peu près la place qu'il aurait eu, c'est-à-dire très très haut. D'un gaucher à un autre, de Diego Maradona à Florian Thauvin. Oui, j'ai osé. On va évidemment parler maintenant des affaires du moment, de l'Olympique de Marseille, et évidemment de cet Olympique de Marseille qui en est à 0 sur 4 en Ligue des Champions, 0 sur 13 si on compte évidemment depuis 10 ans. D'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est un peu injuste de compter, de mettre sur le dos de l'équipe d'aujourd'hui tout ce qui a été mal fait avant. Évidemment, il y avait déjà Thauvin, il y avait déjà Mandanda, mais quand même, c'est un peu dur. Mais bon, c'est une parenthèse. Et on va se poser la question avec Fabrice Lamperti, journaliste à la Provence, de Florian Thauvin, de son avenir, d'un peu tout, parce que il était venu la première année, il avait fait un pied de nez à Lille pour venir à l'OM pour jouer à la Ligue des Champions. Ça s'était bien passé, il est là, il rejoue la Ligue des Champions et on a l'impression que ça ne va pas mieux 7 ans après. Alors j'ai envie de demander, Fabrice, qu'est-ce qui ne va pas avec Florian Thauvin ?
Ouais, salut Max, salut à tous. Il y avait Dimitri Payet aussi en 2013-2014, lors de, en plus de Steve Mandanda et de Flo Thauvin. Qu'est-ce qui ne va pas pour Flo Thauvin ? Bah écoute, je pense que c'est un ensemble de choses. Déjà, l'équipe ne tourne pas, donc ça facilite pas la tâche d'un joueur offensif comme Florian Thauvin. L'équipe, on l'a vu hein, au cours des 4 précédents matchs, des 4 premiers matchs en Ligue des Champions. Il n'y a eu aucune animation offensive, quasiment aucune volonté de créer du jeu, d'aller de l'avant. Je pense que les matchs contre Olympiakos, Manchester City, Porto, enfin, c'était quand même tout sauf du football, hein, quelque part. Donc, quand on aime le football et l'Olympique de Marseille, on a les yeux qui saignent hein, en voyant tout ça. Donc, forcément, c'est compliqué pour un joueur comme Florian Thauvin de tirer son épingle du jeu. Je pense qu'il a aussi le contre-coup quand même de sa blessure à la cheville de la saison dernière. On ne pouvait pas l'attendre à 100% immédiatement. Il ne fallait pas non plus se voiler. Il ne faut pas non plus se voiler la face par rapport à tout ça. Mais après, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé tout ça, Florian Thauvin est quand même l'un des leaders offensifs de l'Olympique de Marseille. C'est quand même lui qui doit tirer cette équipe vers le haut. Et même au milieu de tout ça, au milieu de tout ce qui se passe, mais il n'a rien fait. Il fait peu de différence. On l'a vu un petit peu mercredi contre Porto, il a fait 2-3 bonnes combinaisons sur le côté droit avec Morgan Sanson et il a bien lancé Valère Germain. Il donne un bon ballon de coup de pied arrêté à Valère Germain, mais c'est tout. c'est tout. Alors qu'on attend plus d'un Florian Thauvin, c'est lui qui doit faire des différences normalement avec un Dimitri Payet quand il joue. Bon, Dimitri Payet, il joue un match sur deux, il débute un match sur deux en Ligue des Champions, donc c'est encore autre chose. Mais c'est trop peu. Donc finalement, je pense que, indépendamment de tout ce que je viens de dire, il faut quand même se poser la question de son niveau, de son réel niveau en Ligue des Champions.
Ouais, en plus, ça tombe assez mal parce qu'on sait qu'il est en fin de contrat. Et il y a quelques temps, il avait parlé d'une prolongation et il laissait entendre qu'il voulait des responsabilités, qu'il voulait monter, qu'il pouvait être le patron de cette équipe et peut-être s'inscrire à long terme avec l'Olympique de Marseille, encore plus à long terme. Le souci, c'est voilà, quand la montagne commence à être un peu haute, il y a un peu du mal à retrouver le Florian Thauvin. D'ailleurs, le Florian Thauvin qu'on voit aussi en championnat, j'ai l'impression qu'il y a quand même des stats en trompe-l'œil parce que c'est 3 buts, 5 passes décisives sur le papier. C'est pas mal, ce l'OM a joué 8 matchs, il me semble. Donc en gros, c'est quasiment une action décisive par match. 9, pardon. Mais il manque quand même quelque chose. On a quand même aussi l'impression qu'en Ligue 1, c'est pas non plus complètement foufou ce qu'on voit.
Non, c'est pas folichon pour l'instant, tu as raison. Hein. 3 buts, 5 passes décisives. But contre Brest, Paris et Bordeaux. Les passes décisives, il s'en sort bien aussi. 5, c'est quand même un beau total, hein, cette période de la saison. Ouais. Ça fait quasiment une passe décisive sur tous les deux matchs, puisqu'ils ont joué 9 matchs. Mais voilà, c'est après, le Florian Thauvin qu'on a connu, qui faisait vraiment des différences, hein, j'insiste vraiment là-dessus, qui faisait des différences et qui marquait des buts, il n'était pas à ce niveau-là, il était vraiment à un autre niveau. Rappelle-toi, hein, quand il arrive à griller la concurrence pour aller à la Coupe du Monde 2018, Florian Thauvin, c'est 22 buts cette saison-là. 22 buts, 11 passes décisives. Donc, ça prouve quand même qu'il avait eu un vrai impact, une vraie influence sur les performances de l'Olympique de Marseille cette saison-là, qu'il était à un autre niveau. Donc là, c'est un but tous les trois matchs. Donc oui, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Et surtout, encore une fois, s'il faisait des performances exceptionnelles, des performances énormes, où il crevait l'écran à chaque match, même en Ligue 1, on pourrait dire, bon, c'est pas grave, hein, finalement, il est au service du collectif, d'autres joueurs brillent à ses côtés, donc c'est moins embêtant. Mais non, il ne fait plus les différences qu'il faisait auparavant. Il brille par éclair très intermittent, sur coup de pied arrêté, parce que là, on ne peut pas lui enlever, il a une formidable patte gauche, il arrive à déposer le ballon presque là où il veut. Mais sinon, même dans les matchs, c'est très insuffisant, il ne fait plus de différence, il a du mal à déborder son vis-à-vis, peut-être aussi parce que son jeu devient prévisible. Les trois quarts des défenseurs s'attendent à ce qu'il rentre sur son pied gauche, hein, à chaque fois. Bon, là, mercredi contre Porto, à un moment, il est parti sur son pied droit et du coup, ça a surpris les défenseurs portugais. Mais voilà, c'est trop stéréotypé, trop prévisible. Et surtout, on a l'impression qu'il lui manque aussi ce petit coup de rein qu'il pouvait avoir précédemment et qui lui fait tant défaut qu'il empêche de faire encore, de prendre le meilleur sur ses adversaires.
Alors tu parlais de 2018, c'est vrai que son nombre de buts, c'était le meilleur total depuis Alain Bokchik, donc depuis 25 ans pour un Marseillais. Donc ça dit aussi l'impact qu'il avait. À moi, maintenant, j'ai envie de me pencher vers l'avenir, c'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, ça lui a posé problème. Il a toujours cette image de joueur qui ne réussit pas sur les grands matchs. Malheureusement, j'ai trouvé que des fois, c'était injuste, mais le problème, c'est quand on étire la distance et qu'on regarde sur le long terme, on se rend compte que c'est souvent vrai. Est-ce qu'on sait un peu quelle est la position de l'Olympique de Marseille autour de lui? Parce que le vendre très cher à un très très gros club, ça paraît difficile aujourd'hui à l'instant T. Il sera libre au 1er janvier. Donc, est-ce que l'OM est prêt à tenter de le prolonger? En gros, il reste quasiment, j'allais dire, un mois où l'OM est un petit peu, même pas en position de force, mais on peut encore faire quelque chose. Et surtout, qu'est-ce que l'OM prévoit avec Florian Thauvin? On a l'impression que la situation est quand même très compliquée à ce sujet-là.
Le vendre cher, je crois que ça relève du fantasme aujourd'hui. L'OM n'a jamais réussi à le vendre cher par le passé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, à 6-7 mois de la fin de son contrat, que ça va se produire. Même pour le joueur, hein, je ne suis pas persuadé que ce soit un bon calcul de procéder ainsi désormais. Oui, prolongation, pourquoi pas. Florian Thauvin a envie que les dirigeants lui témoignent leur intérêt, hein, j'ai envie de dire. Lui montrent qu'il est vraiment important pour eux. Il faut voir ça par plusieurs prismes. Hein. Évidemment, il y a le côté sportif, mais il y a aussi le côté financier. Florian Thauvin a 27 ans, donc il y a peut-être la possibilité de faire un gros contrat. Donc, c'est une donnée qui a son importance, hein, encore plus à l'heure actuelle. Donc voilà, l'OM va essayer de le prolonger. Il y a des discussions qui ont été entreprises avec son entourage et Pablo Longoria, le directeur du football de l'OM, qu'il connaît bien, parce qu'il voulait faire venir à Valence déjà, pas cet été, l'été d'avant. Donc voilà, mais c'est pas un dossier simple parce que c'est un gros salaire, parce que l'OM comme tous les clubs français, ou l'immense majorité des clubs français connaît des difficultés économiques, à cause, pas seulement à cause du Covid, hein, le Covid n'a fait qu'amplifier la situation déficitaire de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est tout un équilibre qu'il va falloir trouver. Après, il va falloir voir quels seront les autres clubs qui vont vraiment s'intéresser à Florian Thauvin, parce que Florian Thauvin, s'il est encore là, c'est aussi parce qu'il n'a jamais eu les clubs qui l'intéressaient à lui. Et lui, ce qu'il veut, c'est être dans le top 10, top 15 européen. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun club de ce calibre-là, aucun club de ce niveau-là qui s'intéresse réellement à lui. Donc, est-ce que sa liberté contractuelle peut changer les choses ? C'est possible, mais après, si c'est pour se retrouver 3 ou 4e choix au Bayern, par exemple, est-ce que ça en vaut le coup ou pas ? À voir.
Tu parlais du Bayern, tu parlais auparavant de Valence avec Longoria qui avait essayé de le faire venir. On a vu fleurir ces derniers jours une info, une rumeur qui pourrait l'envoyer du côté du Milan. Est-ce que ça, c'est complètement illusoire ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé ?
Non, écoute, je pense que ça peut faire partie des possibilités. Hein. Je t'avoue que pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas d'infos sur l'intérêt réel ou supposé du Milan AC. Et après, encore une fois, des joueurs libres de 27 ans, forcément, ça va intéresser les uns et les autres. Après, il faudra voir ce qu'ils peuvent mettre en face de leur intérêt ou de leur supposé intérêt. Prime à la signature, contrat sur combien d'années, etc., etc. Après, là, on arrive début décembre. Ouais, c'est à partir du 1er janvier que les joueurs vont pouvoir commencer à signer ailleurs, les joueurs libres en tout cas. Donc, je pense qu'on commencera à y voir plus clair à ce moment-là. Mais après, est-ce qu'un joueur comme Florian Thauvin ne va pas un peu attendre avant de s'engager quelque part ? C'est une possibilité aussi, parce que pour l'instant, on l'a dit, la première partie de saison n'est pas terrible. S'il fait une deuxième partie de saison meilleure, sa cote va forcément grimper et d'autres clubs vont se réveiller et venir taper à la porte. Et c'est peut-être là qu'il pourra décrocher un meilleur contrat si jamais il décide de partir.
Moi, je vois bien un petit axe droit au Bayern Munich, Bounassar, Florian Thauvin. Ce serait pas mal quand même.
Ça la grosse cote. Ça rappellera des souvenirs.
Voilà, exactement. Merci Fabrice. Fabrice Lamperti, vous pouvez retrouver évidemment au quotidien dans la Provence. Merci, il nous a éclairé de ses lumières sur le sujet Florian Thauvin.
Avec plaisir les gars, merci, à bientôt.
Allez, on enchaîne avec notre troisième et dernier sujet sur Oussem Aouar. Aouar qui ne jouera pas face à Reims dimanche à 13h. Et pour cause, il a été sanctionné par son club de l'Olympique Lyonnais d'un match. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé, lors du précédent match à Angers, de venir s'entraîner à l'issue du match sur la pelouse, prétextant un état très dégradé de la pelouse, et comme il revenait d'une blessure aux adducteurs, il avait peur de se blesser. Donc il y a eu discussion, c'est revenu aux oreilles de Juninho, et Juninho, en accord avec le directeur général et en accord avec Jean-Michel Aulas, ils ont décidé de le sanctionner d'un match. Nous, ça nous pose question avec Maxime, parce que Oussem Aouar, il y a quelques semaines, sa non-convocation en équipe de France, finalement, il est revenu avec la blessure d'un autre joueur. On se demande où va finalement Oussem Aouar.
C'est compliqué qu'Oussem Aouar, on va reculer un peu dans le temps, revenir cet été. Il est très bon lors du Final 8, évidemment. Il a un bon de sortie. Jean-Michel Aulas est plutôt enclin à le vendre parce que l'OL a besoin d'argent, comme avec Depay et compagnie. Et finalement, il y a la Juventus, le PSG pense aussi à lui, mais personne met 50
Arsenal
millions.
Aussi. Arsenal, voilà.
Mais personne n'ose mettre les quelques 50 millions sur la table parce qu'il y a le Covid. Et j'ai envie de dire que c'était le pire timing pour Aouar parce qu'évidemment, c'est un moment où vous prenez moins de risques quand lui reste. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un contre-coup, tout simplement, ce qui n'est pas anormal. On va le rappeler, Aouar est jeune. Il faut toujours être un peu plus sympa et compréhensif avec les jeunes. C'est pas évident. Moi, je me souviens d'avoir la première fois où je me suis dit « Oh là là, il a quelque chose de spécial », c'est le fameux Marseille-Lyon de mars 2018. Lyon gagne 3-2. Et là, on se dit « Waouh, là, il a du talent plein les pieds », on le savait déjà. Mais on voit que depuis, c'est souvent quand même assez irrégulier. Il y a des moments qui sont très très bons, d'autres moins bons, etc. C'est lié aussi à la jeunesse, tout simplement, ça arrive. Voilà. Là, on arrive dans un début de saison où il finit le Final 8, où il est très bon. Et là, on se dit « Il va marcher sur, sinon la Ligue 1, au moins être le chef d'orchestre de Lyon. Et on se rend compte que c'est plus difficile. Le dernier épisode qui est arrivé à Angers, pour moi, il est un peu symptomatique. Parce qu'en gros, pour faire simple, tu l'as dit, Il est blessé aux adducteurs. Enfin, il y a ses adducteurs, ça siffle un peu. Donc, on lui dit la pelouse n'est pas bonne, n'y va peut-être pas. Mais à la fin du match, Fichot, qui est l'adjoint de Garcia, je crois que c'est ça, va le voir, lui demande tu peux venir avec les autres, c'est le travail d'après-match pour garder le rythme. Et lui, il décide de ne pas venir, mais il dit, en gros, si j'ai bien compris, et ce qu'un proche d'Oussem Aouar a dit dans l'équipe pour un peu le dédouaner, dit en gros, moi, on m'a dit de ne pas aller sur cette pelouse-là, j'aime autant ne pas y aller. Voilà. On peut se dire que c'est une incompréhension entre les deux parce que finalement, peut-être qu'il écoute l'entraîneur ou les autres, le staff qui vit ça, mais il n'y va pas. Le lendemain, apparemment, il s'entraîne normalement, il fait les choses bien. Mais l'Olympique lyonnais décide quand même de le sanctionner parce que je pense qu'il y a aussi un exemple à donner, c'est qu'un joueur ne peut pas aller à l'encontre du collectif. Maintenant, moi, ce qui m'interroge, c'est que l'OL n'est pas tellement dans ce genre de sanctions habituellement. Et pourquoi l'avoir fait à ce moment-là pour avoir pourquoi Didier Deschamps, la dernière fois, sur la dernière convocation, ne l'a pas repris, alors que c'est vrai qu'en octobre, pour sa première contre l'Ukraine, il avait été timoré, mais bon, c'est une première sélection en équipe de France, ça arrive à tout le monde. Moi, ce que j'ai pas envie d'apprendre dans quelques mois, quelques années, c'est de me dire que c'est que le comportement d'avoir aurait posé problème. Si on le sait que Didier Deschamps, il est très sensible à ça, et que si vous avez un joueur qui le sent mettre peut-être en danger le groupe ou qui ne va pas exactement dans le droit chemin, il préfère s'en passer. J'ai envie de penser que c'est pas ça avec Oussem Aouar, mais j'ai un petit doute à cause justement de ce qu'a décidé Lyon, c'est-à-dire de le sanctionner alors que c'est un truc qui ne se fait pas très souvent à Lyon. Voilà, là c'est mon avis pour le coup, Adrien.
Oui, alors après, est-ce qu'ils ne l'ont pas sanctionné avant qu'il ne soit trop tard, justement, pour pas que dans quelques années, comme tu le disais, on se retrouve à se dire il y a eu des problèmes de comportement avec Aouar. Peut-être que c'était le bon moment pour le piquer un petit peu, pour lui dire attention, Oussem, il y a des règles, t'es dans un collectif. Certes, aujourd'hui, les jeunes footballeurs, on sait très bien, on leur monte un peu le bourrichon, c'est ta carrière avant tout, c'est très individualiste, mais t'es obligé de t'inscrire quand même dans un collectif. Et on voit que Lyon, depuis quelques matchs maintenant reprend un peu le dessus, ça va mieux. Il faudrait pas qu'on laisse Aouar sur le côté, donc on lui fait comprendre d'une certaine manière. Ici, c'est pas les joueurs qui décident parce que sinon ça va commencer à être la foire. Donc on lui fait comprendre ça. Moi, je comprends. C'est vrai que c'est plutôt dans la forme, parce qu'on a presque l'impression qu'il y a eu un petit couac de communication. Parce que à Angers, il était parti s'échauffer, Oussem Aouar. On lui a dit non, finalement, le scénario du match fait qu'on va pas te faire rentrer. Donc arrête ton échauffement. En plus, l'état du terrain est pas très bon. Et puis finalement, on le fait revenir. Et puis finalement, on le sanctionne. Et puis on voit que là, récemment, Rudy Garcia s'est finalement aligné avec le club en disant oui, il fallait le sanctionner. J'ai moi-même initier cette sanction. Donc j'espère que c'est juste un petit couac et que ça va se régler vite en interne pour pas que ça déborde et que le joueur sente une frustration qui pourrait amener à d'autres conséquences derrière.
Alors ce qu'a dit Garcia, je l'ai noté, c'était en conférence de presse vendredi début d'après-midi, je vais répondre une seule fois, il était logique de prendre des sanctions. Moi-même j'en avais proposé, donc a priori c'était pas aussi clair que ça, mais bon, il dit qu'il en avait proposé. L'institution a décidé d'enlever Oussem du groupe pour le match de dimanche, donc je ferai avec le groupe à ma disposition, etc. Voilà, il dit que ça doit se régler en interne. Mais voilà, c'est comme tu dis, en fait, pour faire simple, soit c'est injuste pour Oussem Aouar parce que le type, on lui dit va pas t'échauffer, fais gaffe à tes adducteurs, et on lui demande de revenir, et il dit non, je vais peut-être pas revenir. Alors, peut-être que aussi la façon de le dire, ou peut-être qu'il aurait peut-être dû dire aussi, oui, mais on m'a dit que, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais justement, du coup, on a le doute de se dire que, tu l'as très bien dit, il le pique au vif à ce moment-là pour dire qu'attention, là, tu bifurques un petit peu, on a besoin de toi, un club comme l'OL a toujours besoin d'un joueur comme Aouar, pas que sur le terrain, parce qu'après, évidemment, il était vendable cet été, il le sera l'année prochaine. C'est de se dire aussi, l'idée, c'est de bien le vendre. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué comme situation. On espère qu'on le reverra au plus haut niveau, parce que moi, j'avoue que j'avais fait le pari personnel qui sera l'Euro 2020. C'était l'Euro 2020 à l'époque. Et donc, du coup, je me suis dit, quand il est arrivé en équipe de France, je me dis, ça va peut-être être bon pour l'Euro 2021. Et finalement, c'est pas aussi simple, puisque comme vous l'avez dit, il a été appelé pour jouer l'Ukraine notamment. Il n'était pas dans le dernier groupe, il a été rattrapé. Je crois que c'est le Covid qui l'a sorti du groupe. Donc c'est une situation compliquée, mais je pense comme toi, Adrien, que derrière ça, il y a un petit côté, on va un peu le piquer au vif, lui dire attention, on ne fait pas n'importe quoi dans un club comme l'OL, voilà. Mais c'est vrai que cette histoire n'est pas très très claire.
Mais moi je fais le pari comme toi, j'ai envie de penser que Aouar sera à l'Euro 2020, en 2021 du coup, parce que ce qu'on a vu lors de Final 8, il ne l'a pas perdu, il va se remettre dans le droit chemin, il n'a qu'une envie, c'est de briller, c'est d'aller dans un grand club derrière, et il voit que voilà, ça n'a pas suffi, je veux dire, c'est pas en deux matchs de Final 8 ou trois matchs qu'on montre suffisamment pour claquer dans l'œil d'un cadre européen, mais je pense qu'une deuxième partie de saison à très haut niveau, Euro, et derrière il part peut-être à Arsenal, peut-être qu'un autre club mettra 50 millions, ça sera peut-être un peu moins, mais moi je fais le pari qu'Aouar, c'est quand même un top player, on va pas se mentir, s'il est au top de sa forme et qu'il a le bon état d'esprit, il peut tout déchirer.
Ouais, et dernière chose sur Lyon, le timing de la sanction n'est pas anodin non plus, parce que c'est un moment où Lyon gagne ses matchs. Donc c'est aussi un message aussi au groupe de dire bah, attention les gars, ça marche avec des joueurs, on fera sans s'il faut, voilà. Donc je pense que, est-ce qu'ils auraient pris la même décision il y a deux mois quand ça marchait moyen, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que le timing n'y est pas pour rien, il y a une espèce de cohérence qu'on essaye d'avoir avec le groupe, et c'est Oussem Aouar qui en fait les frais, mais comme tu le dis, voilà, à lui de retrouver le chemin, on espère. Ce qui sera difficile avec l'équipe de France, c'est qu'il n'y a plus qu'une liste avant la vraie liste, et il y aura des matchs de qualif de Coupe du Monde, donc on sait que les essais seront un petit peu terminés, mais après, au gré des formes, des blessures des uns et des autres, bah, c'est pas perdu. Voilà, si on doit lui faire un conseil, c'est de se remettre d'équerre, et ça ira, parce qu'il a tellement de talent dans les pieds que moi, j'ai pas trop de doute, s'il est d'équerre, que ça fonctionnera hyper bien pour lui dans sa carrière.
On a fait le tour, Maxime, j'allais dire, on a fait le tour, Martin, ouais. Tu vois, ouais. On a fait le tour, Maxime, de cette Stream Team. On rappelle, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On n'oublie pas, Maxime, ce week-end sur les antennes d'Eurosport.
Ouais, bah là, c'est le blanc qui revient sur Eurosport, et notamment le début de la Coupe du Monde de biathlon avec des Français qui ont plutôt pas mal tourné, j'allais dire ces dernières années, Loïc Fourcade, mais même l'année dernière. La relève est prête et on peut s'attendre à un super hiver sur les pistes.
Merci à toi, bonne fin de journée, et puis régalez-vous sur les terrains de foot ce week-end, en tout cas dans votre télé.
Ah bah oui, ce que j'allais dire, ouais, on n'a pas le droit de jouer. Si, on a le droit de rejouer ce week-end, je sais plus.
Tu veux jouer dans ton jardin ? Tu
es en train de faire un appel à la désobéissance civile quand même. Hein.
C'est pas ça, ouais. Non, déconnez pas. On voit ce que ça peut donner quand on déconne. Je vous conseille de respecter les règles.
Voilà. Et t'as pris une Allez. Grosse amende, c'est ça, non ?
Allez. Exactement.
Salut.
Salut à tous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.